Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous fêtons cette année le bicentenaire de la naissance de Sainte-Beuve. Le nom de Charles-Augustin Sainte-Beuve est davantage associé au monde de la littérature qu'à celui de l'histoire. Pourtant, c'est oublier que Sainte-Beuve fut l'auteur d'une étude magistrale consacrée à Port-Royal, étude que les éditions Robert Laffont viennent de rééditer dans la collection Bouquins. C'est aussi oublier que Charles-Augustin Sainte-Beuve, né en 1804, connut les bouleversements politiques du XIXe siècle. Il les commenta même au point d'en développer une pensée politique, comme l'a montré en 1941 le livre de Maxime Leroy paru chez Gallimard, « La politique de Sainte-Beuve ». Qui fut réellement Sainte-Beuve? Doit-on retenir l'écrivain du roman Volupté ou bien découvrir et redécouvrir le portraitiste de son monde et des personnages de notre histoire? Fut-il, comme beaucoup en cette époque, un idéaliste ou bien au contraire un sceptique? Eh bien, une chose reste sûre, l'auteur des causeries du lundi fut un homme secret et c'est pour percer ce secret qu'un jour dans l'histoire reçoit Michel Crépu. Michel Crépu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, critique littéraire. Vous êtes l'auteur d'un livre consacré à Sainte-Beuve, paru en 2001 dans la collection Portraits d'Histoire de chez Perrin. Vous êtes également rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes et il se trouve que la dernière livraison de la Revue des Deux Mondes consacre une partie de ses pages à Sainte-Beuve, des lettres inédites, commentées par Alain Bonnereau, ainsi qu'un texte de Jean-Paul Clément, membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, que nous avons d'ailleurs reçu à ce micro. Alors, justement, Michel Crépu, dans les premières pages de la Revue des Deux Mondes, vous tenez un journal littéraire, et dans ce journal, vous faites de Sainte-Beuve un passage obligé dans vos recherches. Alors, ça sera ma première question. Sainte-Beuve n'est-il pas, pour ses portraits littéraires et historiques, n'est-il pas d'abord une référence incontournable pour le chercheur?
Tout à fait, je ne puis qu'applaudir des deux mains à votre introduction. Et je dirais, non seulement une référence, mais parce qu'au fond, les références parfois sont un peu évanescentes, un peu abstraites. Donc, si vous voulez bien, j'accentuerai presque, en allant dans le sens de votre propos, en disant que Sainte-Beuve est plus qu'une référence, c'est un interlocuteur obligé, oui, à condition de considérer le mot « obligation » comme un plaisir, parce que avec le temps, en effet, je m'aperçois que peut-être de tous les livres de Sainte-Beuve qu'il m'arrive de lire et de relire en permanence, peut-être celui que je préfère, c'est l'index, le volume d'index des lundis, où vous avez absolument une espèce d'annuaire extraordinaire de la bibliothèque avec un grand B majuscule, où se trouvent réunis, soit explicitement, soit par ricochet, petits réseaux obliques et autres, n'importe qui, n'importe quel personnage, important ou pas important, et je dirais même la plupart du temps pas si important, et c'est tout ce qui fait le charme de Sainte-Beuve d'ailleurs, c'est qu'il n'a jamais dédaigné les seconds rangs. Et on s'aperçoit en le lisant que les seconds rangs sont remplis de gens tout à fait passionnants, souvent plus passionnants que ceux qui garnissent le premier rang. Et donc Sainte-Beuve est un formidable, un merveilleux médiateur, si vous voulez, un merveilleux connecteur, pour parler le langage de la technologie actuelle, pour vous mettre en contact avec qui vous voulez, si je puis dire.
Il existe combien de portraits?
Alors, là, vous me posez une colle. Je dirais que, parce qu'il y a les lundis fourmis de portraits, oui. Il faudrait subdiviser
tout ça. Les lundis,
c'était
ses chroniques hebdomadaires.
Voilà, ce sont des articles qu'il donnait toutes les semaines, qu'il a donné à deux ou trois grands journaux de l'époque, le Constitutionnel, la Revue des Deux Mondes aussi, bien sûr. Mais il n'y a pas eu que les lundis, il y a eu aussi en effet une série de portraits qui ont fait l'objet de recueils et qui sont intitulés comme tels, portraits. Donc en tant que tel portrait, je pense qu'il doit y avoir au moins une bonne soixantaine de portraits, et je suis sûr que je suis au-dessous de la vérité. Quant à tous les les portraits qui fourmillent dans les lundis, alors là, c'est les mille et une nuits.
Donc, on va chez Sainte-Beuve comme on ouvre un dictionnaire pour avoir des références.
Complètement, on va absolument chez Sainte-Beuve comme on ouvre un dictionnaire, comme on ouvre une sorte d'étonnant annuaire de téléphone, si vous voulez, sauf que à la place du numéro, vous avez un nom avec effectivement des numéros qui se réfèrent aux différents chapitres, aux différentes pages. C'est un index merveilleusement bien fait et qui vous permet immédiatement vous permet de vous faire votre chemin. Et je l'ai encore utilisé récemment, ça je l'évoque dans le journal littéraire de la revue.
Ces portraits sont disponibles aujourd'hui hein, dans la collection bouquins.
Alors, certains d'entre eux le sont. Malheureusement, l'édition des lundis complète manque. Elle n'est disponible que d'occasion chez Garnier. C'est celle à laquelle je fais allusion avec l'index, là, qui fait 15 volumes. Elle est introuvable aujourd'hui en librairie normale, si vous voulez. Donc il faut aller à la pêche. Et il existe quelques éditions plutôt pas mal de poche. Il y a les portraits de femmes, par exemple, chez Folio, qui est un formidable... Pour quelqu'un qui voudrait entrer dans le monde de Sainte-Beuve, je conseillerais volontiers ce volume. Précisément parce qu'il est consacré à différentes figures féminines dans l'histoire de la littérature, dont certaines sont très connues, d'autres beaucoup moins. Donc ça va de Madame de Staël à Madame de Souza. Madame de Staël est très connue, Madame de Souza ne l'est pas ou ne l'est plus. En revanche, l'édition toute récente là en pochothèque intitulée Portrait, qui est une sorte de best-of des portraits des stars de la littérature. C'est, bien sûr, on peut le lire, mais je crois que c'est un peu un contre... Si je puis me permettre ce propos polémique à l'antenne, je trouve que c'est un peu un contresens vis-à-vis de Sainte-Beuve, parce que, encore une fois, Sainte-Beuve est loin de s'être seulement intéressé au statut. Et je dirais même que, au fond, les statuts ne l'intéressaient pas que ça. Ce qui l'intéressait, c'était plutôt les oubliés, enfin les mourants.
Nous allons y revenir. Alors, le supplément littéraire du journal Libération du 3 juin dernier avait pour titre, un titre extraordinaire, « Sainte-Beuve, lisez pour nous ». Et peu avant, le journal La Croix appelait Sainte-Beuve « l'homme qui aimait les livres ». Sainte-Beuve était-il un homme de bibliothèque avant d'être un homme de son temps ?
Ah oui, alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de... je crois, d'essentiel pour la compréhension de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve est né, il est né dans les livres, il est né à Boulogne, il n'a pas connu son père. À Boulogne-sur-Mer, oui. Il n'a pas connu son père, il a vécu entre sa mère et une tante dans un climat plutôt morose. Il l'a souvent évoqué dans ses lettres, avec des formules... Je suis né dans la tristesse. Enfin, bon. Et en fait, il a donc vraiment très très tôt, enfin anormalement tôt, si je puis dire, baigné dans l'atmosphère des livres. Et je crois que ça a été absolument déterminant pour le restant de sa vie, même s'il a pleinement participé à son époque. Il s'y est impliqué à sa manière, à la fois sur le terrain... de l'esthétique, de la critique, mais aussi sur le terrain de la politique, et même d'une certaine façon de la religion. Au fond de lui-même, Sainte-Beuve est un homme foncièrement de la bibliothèque, de l'endroit retiré, de l'endroit clos, où on retrouve une sorte de magie qui est la magie de traverser les époques, les siècles et de passer d'un auteur à un autre. Là, il est absolument incomparable pour ça. Enfin, pour moi, c'est Sainte-Beuve, de ce point de vue-là, c'est presque une sorte de... Oui, de magicien de la bibliothèque.
Alors, c'est un homme solitaire, il n'a ni frère ni sœur. Il a été élevé par sa mère et par une tante, c'est cela ?
Oui, absolument.
Sa mère est anglaise ?
D'ascendance
anglaise.
Oui, il y a effectivement une dans la généalogie familiale, il y a une branche anglaise. Excusez-moi, j'ai
En fait, c'est un homme solitaire. Je disais que c'était un homme solitaire.
Oui. Oui. Enfin, solitaire. Aimant la solitude, aimant la tranquillité, aimant la quiétude, aimant la méditation, la rêverie, la mélancolie. C'est pas un joyeux fêtard. Encore que lorsqu'on lit, par exemple, le journal des Goncourt, on voit que Sainte-Beuve est aussi un amateur de banquets, enfin, qu'il a volontiers le mot pour rire. Et puis, contrairement aussi à un certain cliché, Sainte-Beuve n'a nullement dédaigné le genre féminin, le beau sexe.
Mmh. Alors, on a du mal à imaginer une chose aujourd'hui. À Boulogne-sur-Mer, au début du 19e siècle, et tout au long d'ailleurs du 19e siècle, va avoir une communauté anglaise très importante. La mère de Sainte-Beuve est d'ascendance anglaise. Il y a des journaux anglais qui paraissent à Boulogne-sur-Mer. Est-ce que l'Angleterre influence Sainte-Beuve ?
Certainement. On peut dire que Sainte-Beuve a en lui un héritage de la sensibilité anglaise. Comparé à la moyenne ambiante des écrivains français, il a une connaissance de la littérature anglaise hors norme. Enfin, il est capable de citer Samuel Johnson, par exemple, ce qui est rarissime. Enfin, je ne connais même pas d'exemple pour l'époque qui nous concerne aujourd'hui, bien entendu. Enfin, mais encore qu'aujourd'hui, les choses aient guère évolué dans ce sens. Je ne connais guère que Simon Leitz pour être un fin connaisseur de Johnson et l'évoquer dans certains de ses livres. Mais en tout cas, en ce qui concerne Sainte-Beuve, il connaît bien la littérature anglaise et il en a reçu une certaine inflexion dans la sensibilité, dans un certain goût justement pour le domestique, l'intérieur, le raffinement qui est fait de simplicité et de vie adonnée à l'étude, à la lecture, à la vie du home. Enfin, il y a vraiment presque une volupté de l'intérieur dans tous les sens du terme chez Sainte-Beuve, et ça, je crois qu'on peut tout à fait le relier à l'héritage anglais. J'ajoute qu'à Boulogne, un de ses premiers souvenirs d'enfance, c'est la revue militaire de Napoléon qui s'apprête, enfin, dont le projet est de débarquer en Angleterre.
Mmh.
Et donc, Sainte-Beuve se souvient d'avoir vu sur la plage l'armée de Napoléon s'apprêtant à envahir la perfide Albion.
Alors, Sainte-Beuve monte à Paris très jeune, il monte à Paris à 14 ans, il y poursuit ses études. Quel élève était-il ?
C'était un... Très brillant, très studieux, très travailleur, il a obtenu tous les prix, les accessibles.
Il s'impose très vite.
Ah oui, absolument. C'est quelqu'un qui très 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 vite, enfin même pas très vite, enfin naturellement, parce qu'il est... Depuis le début, en réalité, il baigne dans l'étude, donc pas d'effort véritablement à faire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que au fond, il y a au départ une direction du côté de la médecine et qu'il obtient un diplôme où il est en passe d'obtenir. J'avoue que ma mémoire là me fait un petit peu défaut, mais en tout cas, Sainte-Beuve aurait pu être médecin.
Sa mère voulait qu'il soit médecin.
Sa mère ne voulait pas particulièrement qu'il soit médecin. Là aussi, il faudrait vérifier précisément ce qu'il en est. Mais enfin, oui, il avait. D'ailleurs, c'est resté aussi en lui, ça, ce goût pour l'anatomie des choses, la description précise, le côté naturaliste, enfin, pas au sens esthétique, mais au sens presque justement médical, d'observation des faits. Il y a certainement quelque chose que Sainte-Beuve a gardé de ses études médicales. Bon, il a pris une direction différente.
Mmh. Est-ce qu'on peut dès lors parler d'un certain positivisme dans sa méthode d'analyse ?
Positivisme me paraît un mot trop fort, parce que si nous disions que Sainte-Beuve est un positiviste, cela impliquerait un certain profil qu'au fond il n'a pas. C'est-à-dire que certainement, il y a chez lui un goût pour la science, un goût pour l'exactitude, un goût pour les faits. Je vous rappelle que son sceau qu'il utilise pour son courrier, c'est le mot anglais truth, la vérité, vérité. Non pas la vérité, mais vérité, truth. C'est le mot qui lui sert
de devise,
de sceau. Et Et il a une espèce de foi dans le réel, dans la vérité du réel. Mmh. Et là, effectivement, on peut parler, si vous voulez, de positivisme. Personnellement, je n'emploierai pas ce mot. Je préfère parler de lucidité, je préfère parler peut-être d'homme de la raison, je dirais même pas rationaliste, parce qu'il est trop anguille pour ça, il est trop... Les ismes ne lui vont pas. Mmh. Et puis j'ajoute en plus, et là c'est très contraire à la profil de positiviste, c'est que chez Sainte-Beuve, il y a aussi justement une sensibilité religieuse, une sensibilité spirituelle qui est très difficile à décrire précisément parce qu'elle échappe, précisément parce qu'elle a partie liée avec une certaine mélancolie, un certain goût de l'intériorité. Et là, on est dans un domaine qui échappe totalement à la prise rationaliste ou positiviste.
Alors, à 20 ans, il écrit ses premiers articles dans Le Globe, le Globe qui était l'organe du mouvement romantique. C'est à ce moment-là qu'il dit qu'il aura une carrière littéraire ou, au fond, une carrière de critique, ou au fond, c'est une chose qu'il veut faire déjà depuis, comme on l'a dit, tout petit.
Je ne sais pas très bien s'il y a eu un moment dans la vie du jeune Sainte-Beuve où il se dit « je serai ». Non pas Chateaubriand ou rien, mais je serai critique ou rien. Je ne crois pas. Je crois qu'il a tout naturellement suivi une pente qui existait en lui depuis l'âge, je crois, enfin depuis qu'il a commencé à lire, c'est-à-dire vraiment très, très, très tôt. Un goût pour la lecture, un goût pour le commentaire, un goût pour la digression, un goût pour la familiarité avec les livres. Donc tout ça est venu, je ne pense pas qu'il y ait eu un moment d'illumination, je ne crois pas. Maintenant, il s'est fait remarquer assez vite, ce qui a d'ailleurs favorisé ses contacts avec Hugo à l'époque, sur la gloire montante du romantisme, et certainement il y a eu un premier moment où Sainte-Beuve a pu penser qu'il jouait un rôle... d'influence, enfin, sur la mode, sur l'esprit du temps. Et à l'époque, c'était le romantisme. Puis finalement, là aussi, il y a eu une direction différente. Ça ne lui convenait pas. Enfin, ça n'allait pas à sa sensibilité.
Je reçois Michel Crépu, qui est l'auteur d'un livre sur Sainte-Beuve, paru en 2001 chez Perrin, dans la collection Portraits d'Histoire. Et nous évoquons cette personnalité complexe dans le cadre du bicentenaire de sa naissance. Nous nous retrouvons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Michel Crépu, spécialiste de l'œuvre de Sainte-Beuve. Alors, nous disions qu'il a commencé en fait à écrire ses premiers articles dans Le Globe, l'organe du romantisme en France. Que peut dire Michel Crépu, un jeune homme de son âge, dans le journal militant du romantisme ?
Vous voulez dire, que peut dire...
Que peut-il développer comme idée ? Quelle est son approche ? Est-ce qu'il devient lui-même militant du romantisme ? Est-ce qu'il est séduit par ce courant ? Est-ce qu'il tient à s'y investir, au fond, au même titre que beaucoup d'écrivains à cette époque ?
Difficile à dire, parce que Sainte-Beuve est le contraire d'un exalté, si vous voulez. C'est le contraire d'un emballé. L'ivresse esthétique connaît pas, hein, chez lui. Alors, il a été impressionné par Hugo, la lecture des poèmes, des poésies. Il a été nettement moins impressionné par le théâtre. C'est-à-dire qu'il a été sensible à ce qu'il y avait de mélancolique chez Hugo, et il a été réfractaire au décorum. Il a été réfractaire au théâtre, au décor, aux tirades, à la montée en sauce de l'imagination romantique. Sainte-Beuve n'est pas du tout un homme d'imagination. C'est un homme de rêverie, ça oui, on peut dire, mais d'imagination ou de poussée de fièvre du sublime s'élevant au-dessus des nuées et dominant comme ça depuis Sirius les petites affaires du monde, ça ne lui va pas du tout. C'est pas du tout son truc. Et donc, il l'a exprimé. Je vais un peu vite, hein, parce qu'il y a évidemment tout ça se décompose dans le temps, mais enfin, il y a effectivement un premier moment d'admiration et peut-être même un peu plus, enfin, de vive impression au contact de l'œuvre de Hugo. Mais vraiment assez rapidement, il se détache, ou je dirais, ça ne prend pas, si vous voulez. Il n'arrive pas à. Mais ça, c'est une constante d'ailleurs dans toute sa vie. Il n'arrive pas à adhérer, Sainte-Beuve. Je vous disais à un instant que c'est au contraire d'un emballé, mais c'est même sans aller jusqu'à l'emballement. Le simple fait d'adhérer, ou le simple fait d'être là, lui pose déjà un problème. Donc là où le romantisme pousse à la fusion, à la communion, à l'extase, à toute une expérience de la sensibilité qui s'apparente pratiquement à une forme de mystique profane, Sainte-Beuve ne marche pas. Et donc il se rétracte et il va chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs quelque chose qui lui convienne mieux. Et je pense que c'est une des raisons, enfin, qui explique l'énorme effort qu'il a consacré à l'histoire de Port-Royal. Je pense que c'est pas tant pour des raisons d'histoire spirituelle, d'histoire religieuse, l'histoire d'une sensibilité capitale dans l'histoire de France qu'est l'histoire du jansénisme, l'histoire des messieurs de Port-Royal, mais c'est aussi la recherche d'un climat qui lui convienne. Et il est certain que le climat de Port-Royal lui convenait mieux, même si finalement, au bout du compte, là non plus, ça n'a pas pris. Je crois que la recherche, enfin, le goût qu'il a eu pour Port-Royal s'explique aussi par une déception à l'égard du romantisme.
C'est assez étonnant quand même ce qu'on pourrait qualifier d'un certain détachement, cette qualité d'observateur à l'âge de 20 ans, au fond.
Oui.
Parce que généralement, à 20 ans, on est exalté.
Oui, mais il n'y a pas de jeunesse chez Sainte-Beuve. Sainte-Beuve n'a jamais été jeune. C'est un peu triste à dire, mais c'est un fait. Et lui-même le concédait volontiers. Il n'y a pas de jeunesse chez Sainte-Beuve au sens où la jeunesse pourrait être en effet le moment dans la vie où l'on s'emballe, où l'on s'enthousiasme pour telle ou telle figure. Enfin, dans son cas, ça n'a pas lieu. Il n'y a pas de jeunesse chez Sainte-Beuve.
Alors, je vais vous citer, vous écrivez dans votre livre, un picard de Boulogne-sur-Mer descendu à Paris, rétif à la rodomontade, au maquillage, au grand mensonge admirable de la littérature, entre guillemets, entre parenthèses, tout son problème, le beau sans mensonge, le beau et le vrai ensemble, voilà, il a autant de mal avec Balzac. Voilà pourquoi il a autant de mal avec... Il y a de l'irrévérence chez Sainte-Beuve à l'égard de ces grands de ce siècle.
Bonne question, parce qu'au fond, dans un premier temps, je serais tenté de vous dire que Sainte-Beuve est le contraire d'un irrévérent. Personne n'est plus, au contraire, respectueux des formes que Sainte-Beuve. Dès que quelqu'un hausse la voix, ça lui fait mal à l'oreille et il n'aime pas les gens qui se tiennent mal. Donc il y a chez lui un penchant prononcé pour la vie conforme, enfin la vie bourgeoise et jusqu'à un point d'ailleurs qui est assez rapidement irritant. Et en même temps, et c'est là où le personnage est très intéressant, et en même temps, c'est quelqu'un de très profondément irrévérencieux, qui n'hésite pas, quand il exerce son métier de critique, à dire ce qu'il pense. Et donc, Balzac en a fait les frais, Chateaubriand surtout en a fait les frais, et l'extrait que vous avez eu la gentillesse de lire, je fais allusion à Balzac dans cet extrait, mais ça concerne aussi bien, sinon plus, Chateaubriand.
Alors, le penchant de cette attitude, j'allais dire, un des aspects de l'œuvre de Sainte-Beuve, de ses fameux portraits, c'est qu'il s'intéresse aussi aux petits.
Mais oui, absolument. Pour une
aux
raison.
Oubliés de la littérature.
Oui, parce que, si vous voulez, j'allais dire, si je devais, au fond, donner une formule, trouver une devise à l'œuvre de Sainte-Beuve, je dirais tout se tient. La phrase qui pour moi, pourrait servir d'emblème, c'est tout se tient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'histoire de la littérature, dans le phénomène littéraire lui-même, eh bien, il n'y a pas d'un côté les grands qui sont retenus par la postérité, qui obtiennent leur ticket pour la postérité, et les autres, les malheureux, les oubliés qui n'ont pas leur ticket et qui donc disparaissent dans le néant des étagères que personne ne vient jamais visiter. Non, cette vision est fausse, elle est caricaturale et surtout elle est fausse. Elle est fausse parce que en réalité, tout se tient. C'est-à-dire que on ne peut pas expliquer la grandeur de l'œuvre de Chateaubriand si on ne passe pas par une espèce de généalogie intime, profonde, intérieure, où Chateaubriand a formé a rodé son écriture si extraordinaire, bien sûr. Mais cette écriture de Chateaubriand, elle est nourrie du XVIIIe siècle, elle est nourrie du XVIIe siècle, elle est nourrie en réalité de toute la littérature française qui le précède. Et dans cette littérature, il y a des petits sonnets du Moyen-Âge, de la Renaissance, des madrigaux, des contes, toutes sortes de choses qui forment le tissu d'une sensibilité littéraire. Et là, quand vous entrez à l'intérieur de ce tissu, eh bien, vous tombez comme un scientifique qui fait une observation de végétaux. Vous tombez sur des petites ramifications, vous tombez sur des noms oubliés, mais qui font la chaîne. Si vous voulez, c'est pour ça que je dis tout se tient. Qui font la chaîne, qui conduit à tout à coup l'apparition d'une œuvre magistrale. Le problème de Sainte-Beuve, c'est que il est extraordinairement doué pour reconstituer la chaîne, si vous voulez, qui mène, mettons, de Rabelais à Chateaubriand, je dis non pas n'importe quoi, mais je prends un exemple parmi d'autres, il est fabuleusement doué pour reconstituer la chaîne dans son décomposé intime, si vous voulez, mais en revanche, il n'est pas bon, il faut le dire, dès lors que se produit cette espèce de basculement, de saut qualitatif, et pas seulement qualitatif d'ailleurs, mais de tous ordres, qui fait qu'on passe d'un seul coup du second rang au premier rang, et qu'on passe de, je sais pas moi, l'Harpe, grand critique du 18e, au Mémoire d'Outre-Tombe, ou même à l'intérieur même de l'œuvre de Chateaubriand. C'est là où Sainte-Beuve est d'ailleurs étonnant et curieux, parce qu'il est extraordinairement doué comprendre ce qui a poussé Chateaubriand à écrire Les Martyrs, par exemple. Le projet qu'avait Chateaubriand de refaire ou de faire de la tragédie chrétienne à l'exemple des Grecs, mais version chrétienne. Bon, il n'y arrive pas, ça ne tient pas, c'est du kitsch, c'est du décor, ça ne marche pas. Et c'est à ce moment-là que dans la chimie singulière du bonhomme, de l'écrivain Chateaubriand, se produit un saut qui va conduire à l'amorce extraordinaire des Mémoires d'Outre-Tombe. Là, il y a un saut. Sainte-Beuve n'arrive pas à concevoir ce saut. Donc, son diagnostic sur l'échec des Martyrs est infaillible et son approche des Mémoires d'Outre-Tombe qu'il juge rédigée en bas-breton est concernante. Parce qu'il n'a pas les moyens, c'est très prétentieux de dire ça au micro, j'ai honte de dire ça, mais enfin c'est une vérité. Il n'a pas les moyens de concevoir esthétiquement, si vous voulez, le saut qui mène de l'échec des Martyrs aux mémoires de Tonton.
Il a une approche étonnamment psychologique. C'est nouveau, cette approche psychologique de la critique?
Oui, certainement, oui.
Parce que quand nous évoquions les petits, les oubliés, on peut même parler de psychologie des sociétés. Il ne tient pas à voir des écrivains dans leur unicité, mais la société dans sa globalité.
Oui. C'est, là aussi, les mots sont très vite piégés parce que, bizarrement, vous avez raison, et en même temps, bizarrement, le terme de psychologie ne me vient pas forcément à l'esprit pour caractériser ce merveilleux travail de portraitiste. Sans doute parce que, au fond, Sainte-Beuve, contrairement aussi à un cliché ambiant, est beaucoup plus respectueux. Il ne parle pas à la place, ou il n'interprète pas à la place. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne cherche pas à la grille ou la clé qui mène au coffre-fort de l'identité profonde d'un individu. Il juge toujours d'après ce que l'on peut savoir, et puis il fait des déductions. Alors, il y a une dimension psychologique, mais il y a une dimension un peu anatomiste. On retrouve un peu le médecin toujours. Hein. Mmh. Il décrit des caractères, il décrit des types, il décrit des singularités.
Il est plus un observateur qu'un chercheur, non ?
Je crois qu'il est plus un observateur qu'un chercheur, oui. Mmh. Mmh. Ou en tout cas, c'est un observant qu'il mène une recherche. Mais oui, je crois que, pour le coup, psychologiquement, Sainte-Beuve est plus un observateur qu'un chercheur, oui, certainement.
Alors, nous évoquions Hugo, il y a cette fameuse liaison entre l'épouse de Victor Hugo, Adèle, et Sainte-Beuve. Vous n'opposez pas les deux hommes et vous dites Hugo n'est pas le vrai rival, et nous y revenons si vous le voulez bien, le vrai rival est Chateaubriand.
Oui,
et pourtant là, encore une fois, au départ de leur relation, tout se passe bien, si je puis dire, non ?
Oui, tout à fait, parce que évidemment, Hugo, pour un jeune critique, décrocher un contact avec Hugo, c'est aujourd'hui comme, mais je ne sais pas justement, c'est le problème de notre aujourd'hui, mais de citer un géant, ou en tout cas quelqu'un qui est en passe de le devenir. Mais disons que avec Hugo, le problème est moins esthétique, probablement, que pour le coup, que psychologique. Alors qu'avec Chateaubriand, le problème est beaucoup plus esthétique que psychologique. C'est-à-dire que, pour dire les choses un peu brutalement, je pense que pour Sainte-Beuve, Chateaubriand est meilleur écrivain que Victor Hugo. Et donc, il est d'autant plus à l'affût de ce qui le gêne, de ce qui le titille, de ce qui l'énerve chez Chateaubriand. Ce qui l'énerve chez Chateaubriand, c'est l'extraordinaire capacité d'entourloupe, l'extraordinaire capacité de faire du beau avec des artifices, mais en professionnel hors pair. Pour Sainte-Beuve, Chateaubriand est un hyper professionnel de la littérature. J'exagère un peu en disant ça parce que Sainte-Beuve est très dur et en même temps il est très juste avec Chateaubriand. Il lui reconnaît un génie, si vous voulez. C'est pas simplement une affaire professionnelle. Mais une fois reconnu le génie, une fois admis ça, une fois avalé la coupe amère de la vérité, parce qu'il est très honnête avec lui, qui consiste à reconnaître qu'il y a bien un génie à l'œuvre chez Chateaubriand, il passe immédiatement à la deuxième phase de l'opération, c'est-à-dire on démonte le moteur et on voit comment ça marche. Et on vous explique comment ça marche. Hein. Parce que pour lui, il y a une part d'artifice et donc il y a une part de mensonge qui l'énerve et qui l'enrage de ne pas pouvoir démontrer de façon qui emporte la conviction. Je pense ça l'agace profondément que Chateaubriand recueille les suffrages avec une cuisine interne frelaté. Encore une fois, je durcis les traits pour les auditeurs, mais c'est un peu ça. Avec Victor Hugo, c'est différent parce que au fond, là, on est plus dans un. Bon, effectivement, il y a l'histoire Adèle. Donc, il a eu Adèle. Il a coquifié Victor Hugo. C'est quand même une sorte d'exploit dans son genre. Et là, on est dans un rapport d'admiration, de mélange d'admiration et de jalousie. De conscience qu'il y a chez Sainte-Beuve, presque jusqu'à l'écœurement de sa propre médiocrité physique, par exemple. Il n'est pas beau, il le sait, il n'est pas. Et quand il se trouve devant un type comme un monstre comme Victor Hugo, il y a là quelque chose qui doit le qui le déstabilise, je ne sais pas. Mais gardons-nous d'interpréter sur des choses qui finalement, qui était là pour voir ce qui se passait vraiment avec entre. Je dis qu'il a eu Adèle, je n'en sais rien. On peut le penser, mais et puis qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, avoir quelqu'un, avoir une femme, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc ces questions, je préfère en rester à des points d'interrogation là, si vous voulez, par respect pour la vérité. Et mais ce que l'on peut dire après coup, longtemps après, c'est que la rivalité avec Hugo n'est pas du tout de même nature que le problème que pose.
Je reçois Michel Crépus, spécialiste de Sainte-Beuve, et nous évoquons cette personnalité dans le cadre du bicentenaire de sa naissance. Nous nous retrouvons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio-Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Michel Crépus, rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes. La Revue des Deux Mondes qui consacre, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Sainte-Beuve, plusieurs pages des lettres inédites commentées par Alain Bonnereau, ainsi qu'un texte de Jean-Paul Clément. Alors, Michel Crépus, nous évoquions Chateaubriand. Il y a un mot de Sainte-Beuve que je reprends de votre livre, c'est « Monsieur de Chateaubriand ». Est-il triste naturellement ou est-ce un rôle ? C'est une question qui bouleverse l'auteur.
C'est une question fondamentale qui explique les trois quarts de la littérature française, en fait. Parce que ça touche au problème de la duplicité, ça touche au problème des arrière-pensées, de la vérité sur soi, Tartuffe. Il y a toute la tradition des moralistes derrière, La Rochefoucauld, Chamfort, etc. Enfin, une interrogation très profonde. Il y a Molière. Bon, une interrogation abyssale sur l'homme avec lui-même et avec les autres. Et l'adéquation ou non de l'homme à son langage, à ses sentiments, à sa pensée. Parler, etc. etc. Donc, on est là dans quelque chose de très. Vraiment, qui ne concerne pas seulement Chateaubriand, mais dont Chateaubriand est un prodigieux résumé, enfin, un prodigieux concentré. Je reprends la formule de Chateaubriand, d'ailleurs, qui doit venir d'ailleurs, mais là, j'avoue, moi, ma propre incompétence, quand Chateaubriand parle de la manie d'être, parlant de lui, bien sûr, la manie d'être. C'est prodigieux, parce que c'est introduire tout de suite le ver dans le fruit. Hein. Je ne suis pas seulement celui que je suis en face des autres, en face de vous, mais je suis un comédien. Je suis quelqu'un qui est dans une manie, c'est-à-dire qui est dans quelque chose qui immédiatement introduit la fausse note, introduit le décalage, introduit quelque chose que le terme de manie suggère, qui est une espèce de d'habitude, mais d'habitude de quoi par rapport à quelle trame de départ, etc. Donc, il est évident que pour Sainte-Beuve, qui est très très sensible à ce questionnement, Chateaubriand lui apparaît l'animal de choix. Quoi.
Je me permets de citer un autre passage. Je cite donc Sainte-Beuve, il compose sa vie, ou pour mieux dire, il la laisse s'arranger d'une toute autre manière. Il n'écrit que pour les autres et ne vit que pour lui. Il ne songe point à être approuvé, mais à se contenter. Il ignore même profondément ce qui est approuvé dans le monde ou ce qui ne l'est pas. Il n'est pas un peu trop dur là sur Chateaubriand ?
C'est Sainte-Beuve qui dit ça ou c'est Joubert ? Il me semble que ça doit être une lettre de Joubert. Enfin, peu importe, parce que Joubert a fait un portrait de Chateaubriand pratiquement inégalable à la fois dans la sévérité, dans l'intelligence du personnage qui était Chateaubriand. Je crois que ça doit être du Joubert.
Oui, ça. Oui, c'est exact.
Mais ça change absolument pas la nature du problème. Au contraire, ça ne fait que l'approfondir. Dur, oui, dur, mais juste. Ça sonne vrai, ça, on sent que ça rend un bon son. Quoi. Le problème, c'est ce que vous en faites à partir de là. Une fois que vous avez constaté ça, une fois que vous avez identifié ça, une fois que vous avez la photo, la pièce à conviction indiscutable, hein, l'ADN du personnage, une fois que vous avez ça, quelle conclusion en tirez-vous ? Est-ce que vous en tirez une conclusion morale, à savoir, ce personnage n'est pas fréquentable, parce qu'il est faux, parce qu'il est qu'en réalité il ne s'intéresse qu'à lui, il se moque des perdus, de ce que font les autres, etc. Ou est-ce que vous considérez que ça fait partie de la nature humaine et vous passez plutôt du côté d'un Montaigne ou du côté de ces Latins pour qui de ce Terence pour qui tout ce qui est humain ne lui est pas étranger. Enfin, je cite approximativement. Sainte-Beuve est à cheval entre les deux. Il a incontestablement un versant moral, voire moralisateur, ce qui est agaçant parce que ça appauvrit le propos, mais il aime tellement la nature humaine, il aime tellement la connaître, l'observer, comme vous disiez tout à l'heure, que ça compense le penchant à au reproche moral. Mais il y a quand même beaucoup de ça chez lui.
La phase morale n'est pas une quête de pureté.
Chez lui, elle n'est pas une quête de pureté, mais elle est encore une fois une quête de vérité, une quête d'adéquation des choses, que les choses s'emboîtent bien. Si je dis ça, alors c'est sûr que c'est lié à un certain fantasme de pureté, mais je crois qu'il est trop lucide pour se faire des illusions. Trop d'illusions sur ce qu'il peut en être de la pureté dans la nature humaine. Mais en revanche, un souci de, au fond, disons les choses simplement, une détestation profonde de l'hypocrisie. Voilà, voilà pourquoi il n'aime pas les calotins. Voilà pourquoi il n'aime pas les prêtres.
Alors justement,
il considère comme des hypocrites.
Venons-en à cet aspect religieux. Il se tourne à un moment vers le mysticisme, à l'approche de Lamennais. Quels furent ses rapports avec lui ?
Des rapports étranges. Il a connu Lamennais chez Hugo, puisque Lamennais était le confesseur de Victor Hugo. Là aussi, tout se tient. Et il a été incontestablement séduit. Je disais tout à l'heure, jamais emballé, mais séduit, oui. Il a été séduit par Lamennais. Ils se sont revus ensuite seul à seul. Et certainement, Lamennais a représenté pour lui une voie possible d'accord avec la religion, avec la vie religieuse. Ça, certainement, Lamennais a été un espoir pour lui. Un type qui était susceptible d'être admiré, susceptible d'emporter la conviction. Lamennais a été pour Sainte-Beuve un des rares espoirs de pouvoir peut-être éventuellement confesser une fois, etc. Simplement, et c'est là où les choses aussi prennent un tour assez curieux, c'est que le premier Lamennais que Sainte-Beuve a connu, c'est un Lamennais catholique, j'allais dire pur et dur, c'est-à-dire vraiment enfin, romain. Et c'était ça qui plaisait à Sainte-Beuve. Et Sainte-Beuve s'est détaché de Lamennais à partir du moment où Lamennais a basculé et où il est devenu ce prophète très étonnant de l'âge démocratique et qui l'a bien sûr amené à rompre, enfin, à se trouver dans une situation de conflit très grave avec Rome que Sainte-Beuve a suivi d'assez près, mais avec au fur et à mesure un désaccord de plus en plus profond à l'égard de Lamennais. Sur quoi portait ce désaccord ? Pas tant
sur les options de pensée,
sur les options philosophico-religieuses de Lamennais, que par le côté retournement de veste. C'est ça qu'il disait, mais vous ne pouvez pas embarquer des gens à votre suite dans un premier temps, et puis ensuite les laisser sur le bord et changer de barque et partir dans la direction opposée. C'est inadmissible. Et en plus, ce qui l'agaçait profondément, c'était le côté, alors pour le coup, vraiment exalté chez Lamennais. C'est-à-dire, là, on retrouve toujours la rétractation sainte-beuvienne de ce point de vue-là. Lamennais lui paraît un fou, un excité. Et là, il ne supporte pas. Parce que je pense que pour lui, l'excitation, le côté bonhomme qui pète les plombs, pour reprendre une expression d'aujourd'hui, est la preuve certainement que quelque chose ne va pas dans le moteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mensonge quelque part. Il y a quelque chose un inavouable. Il y a une très bizarre petite manipulation et il le sent, ça. Il détecte ça.
Je reçois Michel Crépu et nous évoquons la personnalité de Sainte-Beuve, de l'auteur des causeries du lundi. Nous nous retrouvons après une dernière pause.
Canal Académie.
Mondialisation, régulation, privatisation, génétique, euthanasie, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques participent au grand débat contemporain. Ouvrez leurs rapports, découvrez leurs travaux, écoutez leurs analyses. Éclairage, l'émission destinée à vous faire comprendre le monde, notre monde, ses enjeux aujourd'hui et demain. Éclairage, c'est tous les jours sur Radio Canal Académie.
Christophe Dickès.
Nous reprenons notre émission et nous entamons la dernière partie de cette évocation de Sainte-Beuve. Existe-t-il, Michel Crépu, vous êtes l'auteur d'un livre sur Sainte-Beuve, paru aux éditions Perrin dans la collection Portraits d'Histoire. Existe-t-il chez Sainte-Beuve une ironie ?
Ah oui. Oui, bien sûr. Oui, il y a un petit rire.
Le rire de l'observateur.
Le rire de l'observateur qui prend un malin plaisir à déjouer les manipulations, les petites manœuvres d'intimidation, qu'elles soient d'ordre sentimental ou autre. Enfin, c'est un. Oui, bien sûr, c'est un grand ironiste. Grand ironiste. Un grand dénicheur de tartuffisme. Du tartuffisme dans ses variables innombrables. Oui, absolument.
Il regarde de haut les bouleversements politiques. Vous présentez notamment son jugement sur les perdants de la monarchie de Juillet, des aigris, des émigrés de l'intérieur. Il les qualifie comme tels. Comment sent-il le politique de son époque ? Puisqu'au fond, il vit comme Chateaubriand ses bouleversements. Nous l'avons dit tout à l'heure, il va soutenir Napoléon III.
Oui. Profondément, c'est un modéré. Dans tous les sens du terme, il déteste les extrêmes, il déteste les emballements, encore une fois, qui mènent à des catastrophes. Si l'histoire pouvait se dérouler toujours dans un certain équilibre, là, on est un peu dans une sorte d'utopie sainte-beuvienne, d'espèce très particulière, mais il y a bien des formes d'utopie. Certainement, il y a chez lui l'utopie de la modération envers et contre tout. Or, l'histoire ne marche pas comme ça. Mais en même temps, cette modération lui donne une lucidité. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout quelqu'un qui s'enferme dans. Une fois que l'événement a eu lieu, comme la Révolution française ou d'autres. Une fois que l'événement a eu lieu, il est vain de chercher à le nier, ou il est vain, encore plus vain, de vouloir remonter le torrent dans le mauvais sens.
Il n'est pas idéaliste, hein, absolument non, pas.
Jamais. Pas une trace d'idéalisme chez ça.
Alors Maxime Leroy, que je citais en début d'émission, qui a écrit en 1941 « La politique de Sainte-Beuve », c'est un livre malheureusement qu'on ne trouve plus qu'en occasion aujourd'hui, expliquait que c'était un empirique. C'est un caractère de sa politique ?
Oui, certainement, oui. Au sens où l'empirisme est d'ailleurs quelque chose d'assez anglais. Respect des faits, respect du réel. On ne pense pas le réel à sa place, on compose avec le réel, éventuellement on le subit, et on élabore une navigation à partir de là. Donc de ce point de vue, oui, absolument, un grand empirique.
Alors, on en vient au cœur, j'allais dire, de la personnalité de Sainte-Beuve. Vous en faites un sceptique, oui. À la française.
Oui, il me semble que c'est le mot qui résume le moins mal, au fond, notre conversation et ce travail que j'ai mené autour de Sainte-Beuve et qui m'a fait aimer encore plus Sainte-Beuve que je ne l'aimais déjà. Et encore plus aujourd'hui, je le lis, je le relis avec un plaisir toujours de plus en plus grand. Et donc, oui, le mot sceptique... comme cousin, si vous voulez, d'une expérience quotidienne de la relativité des formes, une expérience de la relativité, une expérience de la multiplicité des figures dans la littérature, dans la sensibilité. Certainement, le scepticisme, le seul moyen d'embrasser le moins mal cette multiplicité que nous offre la bibliothèque et la réalité. Mais les deux se confondent.
À la fin de votre livre, vous vous posez une question, peut-être vous n'avez-vous pas la réponse. Le scepticisme est-il l'antichambre du nihilisme ?
Oui, je dirais que c'est une question un peu programme, peut-être pour un livre futur, que j'écrirai peut-être ou que je n'écrirai pas, je ne sais rien. Mais oui, parce qu'il y a une marge entre douter et, comment dire, assumer la relativité, le caractère incertain des choses, le fait qu'il n'y a pas de vérité centrale. Il y a une marge entre assumer cette vue des choses et le nihilisme pur et simple qui pourrait... déduire de ce caractère multiple et de ce caractère incertain de la réalité un principe de pur abandon et d'abandon de soi aux forces dominantes et qui me paraît la composante intrinsèque du nihilisme.
Vous avez un mot très fort, vous dites un homme si familier, vous le qualifiez, Sainte-Beuve, d'un homme si familier du néant des choses.
Oui. Il a une, oui, oui, absolument. Sainte-Beuve a une, même une conscience impressionnante de la décomposition des choses, du caractère provisoire, des événements, des êtres. Mais cette conscience du néant qui est contenue dans la vie est différente d'un pur nihilisme. C'est pas tout à fait, c'est pas la même chose.
Alors il y a une page que vous évoquez également de cette vie, c'est son anticléricalisme à la fin, vous ne le mettez pas, vous en parlez et vous posez la question au fond, on se dit tout ça pour à la fin.
Oui, on est arrivé oui, à ces fameux banquets là, du Vendredi Saint, enfin du je sais plus comment il appelle ça d'ailleurs.
Vous citez Louis Veuillot qui l'appelait le libre mangeur parce qu'il faisait le gras le vendredi.
Oui, voilà. Oui, c'est là, c'est un point de vue tout à fait personnel. Il y a loin de cette espèce de crispation anticléricale des dernières années à une période antérieure qui a ma préférence, où Sainte-Beuve développe une sensibilité beaucoup plus subtile, plus fine. On n'a pas parlé de son roman Volupté, mais voilà, dont Volupté me paraît être une formidable image. Je me reconnais pas dans le ripailleur anticlérical de la fin. Enfin, je l'accepte. Mais j'y vois une forme d'amertume, j'y vois une forme d'échec là, oui, de crispation. C'est pas dans son genre et pourtant ça lui arrive. C'est curieux.
Eh bien, nous resterons sur le mot vérité de Sainte-Beuve. Merci Michel Crépu.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Sainte-Beuve, paru dans la collection Portrait d'histoire de chez Perrin. Vous êtes également rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes, qui, pour sa livraison des mois de juillet et août 2004, consacre plusieurs de ses pages à Sainte-Beuve. Merci beaucoup, Michel Crépu. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.